le guide suprême de la révolution islamique, a salué le nouveau chapitre qui s'ouvre dans les relations Téhéran-Tashkent. Israël s'apprête à approuver la construction de 4500 colonies de peuplement sioniste en Cisjordanie. Et le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale aura lieu à Libreville le 1er juillet. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a reçu dimanche 18 juin à Téhéran le président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, et la délégation qui l'accompagnait. Lors de la rencontre, le leader a déclaré que les deux pays partageaient des attributs historiques, culturels et scientifiques uniques, affirmant que l'Iran et l'Ouzbékistan devraient utiliser tous les points communs pour étendre leurs relations dans divers domaines. L'Ayatollah Khamenei a salué le nouveau chapitre qui s'ouvre dans les relations bilatérales après une longue suspension. Évoquant les entretiens du président Mirziyoyev avec de hauts responsables iraniens, le leader a exprimé l'espoir que les pourparlers tenus à Téhéran seront le début d'un avenir meilleur pour les coopérations entre les deux pays. La République islamique d'Iran a la capacité de relier l'Ouzbékistan à la haute mer via le Turkménistan et l'Afghanistan, alors que les motifs de la coopération bilatérale dépassent le commerce et les transports, a fait noter l'Ayatollah Khamenei. Il a en outre indiqué que les innovations dans une variété de domaines scientifiques et technologiques pouvaient conduire à l'amélioration de la coopération entre les deux pays, exhortant Téhéran et Tashkent à ignorer ceux qui s'opposent à l'expansion des relations bilatérales. Au cours de la rencontre, à laquelle assistait également le président iranien Ebrahim Raisi, Mirziyoyev a pour sa part salué sa rencontre historique avec l'Ayatollah Khamenei. Le président ouzbek a fait l'éloge de la résistance de la nation iranienne face aux sanctions imposées par les États-Unis, déclarant que d'énormes acquis de l'Iran, en particulier dans les domaines scientifiques et technologiques, prouvent qu'une nation unie peut atteindre des objectifs majeurs en poursuivant les sages directives de son leader. Lors de la visite du président ouzbek à Téhéran, l'Iran et l'Ouzbékistan ont signé 10 documents de coopération dans plusieurs domaines. À la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, est arrivé à Téhéran dans la journée du dimanche 18 juin. Il s'agit de la première visite officielle d'un président ouzbek en Iran depuis 20 ans. Le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue ouzbek ont également publié un communiqué conjoint. Dans le cadre des accords, Téhéran et Tashkent renforceront leur coopération dans plusieurs domaines, dans le commerce, le transport, le transit de marchandises, la pharmacologie, les normes de fabrication, les assurances, la création de zones franches conjointes, la technologie et l'agriculture. Les présidents iraniens et ouzbeks ont tenu une réunion en tête-à-tête. Des délégations de haut rang des deux pays ont également discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale. La visite du président ouzbek en Iran intervient dans un contexte où les deux pays tiennent à renforcer la politique de voisinage et la convergence dans plusieurs domaines, notamment l'économie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le développement des relations avec les pays africains occupe une place particulière dans la politique étrangère de l'Iran. Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré dimanche 18 juin, lors d'une rencontre avec Issa Boro, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso en visite à Téhéran, que l'essor des relations avec les pays africains constituait l'une des priorités de la politique étrangère de la République islamique. L'expansion des relations bilatérales entre les deux pays est au beau fixe et la tenue prochaine d'une réunion de la commission conjointe sera une bonne occasion de renforcer notre partenariat dans les domaines de l'économie, du commerce, de la science et de l'éducation, a-t-il indiqué. Issa Boro a pour sa part déclaré que l'objectif principal de son voyage à Téhéran était d'explorer divers domaines d'intérêt commun, notamment économique. Le Burkina Faso est déterminé à rouvrir une ambassade à Téhéran. Le terrain est propice à l'approfondissement des relations bilatérales compte tenu de la détermination des deux pays, des capacités d'ingénierie et des avancées majeures de l'Iran, a souligné Boro. Samedi, il a rencontré Ali Bareilly Kani, vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, et a fait part de la décision du gouvernement burkinabé d'ouvrir une ambassade à Téhéran. L'Iran est un pays avec une grande civilisation et une culture ancienne, a-t-il rappelé. Un pays avec lequel le Burkina Faso souhaite établir des relations politiques, économiques et culturelles. En avril dernier, Amir Abdullahian s'est entretenu au téléphone avec son homologue burkinabé, Olivia Rouamba, soulignant la volonté de la République islamique de renforcer les liens avec tous les pays africains. Sous le président Ebrahim Raisi, l'Iran s'est fixé de promouvoir ses relations avec les États de l'Asie de l'Ouest et d'Afrique, au détriment des pays occidentaux qui ont imposé des sanctions à la République islamique. En février dernier, des hommes d'affaires et des responsables iraniens et africains se sont réunis lors d'une grande conférence à Téhéran pour discuter des moyens de renforcer les liens commerciaux. Les autorités israéliennes ont déposé des plans pour approuver la construction de milliers de nouvelles unités d'habitation en Cisjordanie occupée, défiant le tollé international suscité par l'expansion illégale des colonies et l'accaparement des terres dans les territoires palestiniens occupés. Des médias citant des sources israéliennes ont déclaré dimanche 18 juin que les plans d'approbation de 4560 colonies dans diverses régions de Cisjordanie figuraient à l'ordre du jour d'un conseil de planification israélien qui se réunira la semaine prochaine. Au moins 1332 colonies sont en attente d'approbation finale, les autres étant toujours en cours de procédure d'approbation préliminaire. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, qui gère également l'administration civile en Cisjordanie occupée, a confirmé que le régime poursuivrait sa campagne d'expansion des colonies. Nous continuerons à développer les colonies et à renforcer l'emprise israélienne sur le territoire, a-t-il déclaré. Smotrich a prêté serment l'année dernière en tant que membre du nouveau cabinet d'extrême droite du régime dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre et son groupe ont l'habitude de tenir des propos provocants contre les Palestiniens. En février, Smotrich a demandé que la ville palestinienne de Houvara, en Cisjordanie occupée, soit anéantie. Des centaines de colons israéliens armés ont ensuite attaqué Houvara et les villages voisins et incendié des dizaines de maisons et de voitures. Depuis son entrée en fonction en janvier, la coalition de Netanyahou a approuvé la promotion de plus de 7000 nouvelles colonies, la plupart en Cisjordanie. Il a également amendé une loi pour permettre aux colons de retourner dans 4 colonies qui avaient été précédemment évacuées. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a aussitôt condamné la décision du régime, qui ne donnera pas à Israël de légitimité sur notre terre. Notre peuple y résistera par tous les moyens. Le Hamas a appelé la communauté internationale et l'ONU à prendre des mesures sérieuses et urgentes pour arrêter la judaïsation et les projets coloniaux d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. Une grande partie de la communauté internationale considère les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires occupés comme illégales. Plus de 600 000 Israéliens vivent dans plus de 230 colonies construites depuis l'occupation israélienne de 1967 en Cisjordanie et à l'est de Qods. Pourtant, les Palestiniens veulent que la Cisjordanie fasse partie d'un futur État indépendant avec Rodez comme capitale. Des centaines de militants de différents groupes ont afflué dans les rues de Dresde dimanche 18 juin pour se rassembler sous le slogan « Paix et liberté » appelant à la démocratie, à l'arrêt des livraisons d'armes, à la justice sociale, à l'occasion du 70e anniversaire du soulèvement est-allemand. Les images montrent des militants de différents mouvements pendant la marche tenant des drapeaux et des pancartes indiquant « Aujourd'hui des chars, demain des avions, après-demain nos fils, arrêtez l'approvisionnement en armes, plus jamais la guerre, arrêtez la propagande, etc. » Des militants ont également été vus portant des masques du président américain Joe Biden et du chancelier allemand Olaf Scholz pendant la marche. Cette terrible guerre doit enfin s'arrêter. Ce ne sont pas les gens qui livrent les armes aux francs, qui sont pour les livraisons d'armes et qui sont pour cette guerre. Mais par contre, ce sont ces mêmes gens ordinaires qui perdent la vie. Et je pense que c'est suffisamment horrible. Cela devrait s'arrêter. C'est pourquoi je suis ici et j'ai le drapeau de la liberté avec moi, a déclaré Erke, un militant. La semaine dernière, des centaines de manifestants allemands ont organisé un rassemblement de protestation devant la base aérienne de Wunstorf à Hanovre, en Allemagne, pour protester contre l'exercice de l'OTAN dans ce pays. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. la flambée des exportations de pétrole iranien sans le PIGAC. Au cours de la dernière décennie, l'économie iranienne a été confrontée à un phénomène appelé l'embargo pétrolier, qui a créé de sérieuses restrictions sur les exportations de pétrole, principale source de revenus du pays. En attendant, deux stratégies ont été proposées pour faire face à l'embargo pétrolier. La première consiste à négocier et s'entendre avec les États-Unis pour lever l'embargo, et la deuxième envisage de neutraliser l'embargo pétrolier en créant un marché pétrolier. Dans un rapport intitulé « Déchiffrer le bilan du PIGAC dans la vente de pétrole iranien », l'agence de presse Fars, citant les statistiques de l'OPEP, a répondu pourquoi la mise en œuvre du plan global d'action conjointe PIGAC n'a pas eu d'effet global sur l'augmentation des exportations de pétrole iranien. Bien que la mise en œuvre du PEGAC ait initialement donné lieu à une augmentation des ventes de pétrole, mais en détruisant l'infrastructure permettant de contourner les sanctions, elle a en fait considérablement accru la vulnérabilité de l'Iran après le retrait américain du PEGAC et imposé un coût élevé sur le flux des ventes de pétrole. Selon les calculs, les exportations moyennes de pétrole de l'Iran au cours de la période affectée par le PEGAC étaient d'environ 1,1 million de barils par jour. Mais dans le 13e gouvernement, la confrontation du ministère du pétrole à l'embargo pétrolier est passée d'une approche passive qui attendait la levée des embargos à une approche active dans le cadre du développement du marché pétrolier. Dans le cadre de la nouvelle approche, l'Iran a identifié et construit de nouveaux marchés pour la vente de son pétrole en utilisant les outils de la diplomatie énergétique et en renforçant les relations avec les pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Cependant, le résultat de la mise en œuvre de cette approche a été la restauration des exportations de pétrole iranien de près de 600 000 barils à plus d'1,2 million de barils par jour. Ce qui a été confirmé aussi bien par des sources nationales que par des institutions étrangères réputées. Les exportations de pétrole de l'Iran ont augmenté à près de 2 millions de barils par jour, alors que les gouvernements précédents pensaient que sans le PEGAC, pas même un seul baril de pétrole ne pourrait être exporté. Actuellement, selon les statistiques des institutions étrangères, les exportations de condensats de pétrole et de gaz de l'Iran ont augmenté à près de 2 millions de barils, et cela sans le plan global d'action conjointe.